Je vous invite à suivre l'émission Dialogue entre Congolais avec Alain Ring de la présentation.
Bonsoir, sécurité alimentaire. Récemment, des poulets destinés à la destruction ont été vendus sur le marché de Kinshasa. Comment expliquer cette situation? Comment renforcer la sécurité alimentaire en RDC? Nous recevons comme invité Dr. Théophile Bokingé, directeur du programme national de l'hygiène aux frontières. C'est un service spécialisé du ministère de la Santé. Dr. Bokingé, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Raphaël Badidi, responsable marketing du groupe Orgaman, spécialisé dans l'importation des produits congelés. Monsieur Badidi, bonsoir.
Bonsoir, journaliste.
Lui est en ligne, c'est Modeste Baaki Mukwebo, député national, président du groupe parlementaire des indépendants et membre de la commission économique et financière de l'Assemblée nationale, également opérateur économique. Honorable Baaki, bonsoir.
Bonsoir, camarades.
Vos réactions, chers auditeurs, nous les avons déjà comme d'habitude. Albert Kungu, membre de la société civile de Kamanga au Café Occidental. La population a couru vers ses poulets parce qu'elle est affamée et pauvre. Que font l'hygiène aux frontières, le service de quarantaine animale et l'OCC? Que pensent les élus du peuple vis-à-vis du ministère de la Santé publique, de l'agriculture et du commerce extérieur? Où est finalement la tolérance zéro? Gérard Kazingoulou de Bénin-Nord-Kivu, la sécurité alimentaire en RDC n'a jamais été une préoccupation pour les autorités congolaises. Il suffit d'observer les produits qui entrent dans ce pays et dans quelles conditions ils sont exposés au marché pour se rendre compte du danger. Vous êtes des millions à nous suivre à travers le monde sur RadioCapi.net et en FM sur toute l'étendue de la RDC. Bienvenue à tous dans votre émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Au moins 3000 cartons de poulets avariés empirés ont été retrouvés en circulation. Une scène qui s'est déroulée dans la localité Kimvula, quartier Mitindi, dans la commune de Mongafula. C'était jeudi 14 octobre dernier dans la soirée. Ces poulets avariés provenaient du centre-ville de Kinshasa. Ces poulets sont dans des emballages jaunes avec une mention au Sahara, dans des cartons avec des écrits en arabe. Sur ces cartons, une étiquette en blanc où on peut lire « Ministério da Agricultura Brasil ». Sur le sachet jaune, la date de la production est indiquée février 2009, mais la date d'expiration n'est pas visible. Nous recevons dans ce studio notre confrère Jacques-Yves Molima, qui a enquêté sur ce dossier. Bonsoir Jacques-Yves.
Ah, bonsoir Alain.
Comment ces poulets avariés, Jacques-Yves, ont été retrouvés en circulation?
Selon des informations à notre possession, la population du quartier Mitindi était donc au parfum d'une information selon laquelle les deux containers arrivés ce jeudi-là dans la soirée dans l'après-midi, donc, dans leur quartier contenait des cartons de poulet destinés à la destruction. Elle a alors accouru, comme vous le savez, sur le lieu et juste après le départ du véhicule, elle s'est ruée sur ce marchandise.
Là, vous confirmez, Jacques-Yves, que ces poulets sont encore retournés sur le marché.
Bon, d'autant plus qu'il n'est pas de notre droit d'aller vérifier dans les maisons privées des habitants de Mitindi. Tout ce que nous savons, c'est que déjà vendredi, donc le lendemain de la destruction de ces poulets avariés, il y a eu une vente de poulets dans les quartiers à un vil prix. Tenez, 300 à 500 francs congolais pour un poulet de poids 12, par exemple. Et nous-mêmes, nous avons vu ce poulet. Alors, selon des témoignages que nous avons recueillis sur place à Mitindi, les mamans vendeuses de petits restaurants ont réalisé des bonnes affaires. Mais une grande partie de ces poulets récupérés avait pris la direction de Kasangoulou dans le Bas-Congo et une autre partie est revenue vers les quartiers périphériques de Kinshasa.
Mais, Jacques-Yves, il existe tout de même une procédure légale en matière de destruction des produits avariés. Le service compétent n'était-il pas au courant de cette situation?
Il faut de prime abord dire que le chef du quartier Mitindi, que nous avons contacté, nous a avoué qu'il était au courant d'une telle opération dans son quartier. Mais, le jour de l'opération même, il n'a pas été informé. Toutefois, le service de l'environnement, de l'hygiène, que ce soit celle de la ville, que celle des frontières, le service de sécurité, de l'agriculture, était au courant de la situation. Une commission a même été mise en place pour détruire ces poulets avariés.
Dernière question, Jacques-Yves. Comment comprendre alors qu'une commission ait été mise en place, mais que ces produits se retrouvent en circulation?
La question mérite d'être posée. Hein. En effet, nous savons qu'il y a trois étapes qu'il faut impérativement respecter pour détruire des produits avariés, le cas échéant. Il y a d'abord la dénaturation, ensuite l'incinération et enfin l'enfouissement. Et au dire de certains responsables, Un devis était même élaboré pour ce faire, notamment s'il fallait acheter du carburant pour la dénaturation avant l'incinération. Si un autre tremble la vie, il semble que cela n'a pas été suivi à la lettre, car ces poulets, non seulement sont en circulation, mais ils sont consommés.
Merci beaucoup, Jacques-Yves, et bonne soirée.
Merci, Alain Gong.
Docteur Théophile Bokenge, je rappelle que vous êtes directeur du programme national de l'hygiène aux frontières, un service spécialisé du ministère de la Santé. Vous venez de suivre au moins 3000 cartons de poulets avariés destinés à la destruction qui se retrouvent sur le marché. Docteur, comment vous expliquez cette situation?
Merci, messieurs les journalistes, pour cette question pertinente. Nous avons reçu un rapport circonstancié qui confirme d'abord qu'il y avait tous les services pertinents par rapport à l'opération de la destruction au site de Mistendi, et cela s'est passé le 14 dernier.
Quels sont ces services, docteur?
Il y a le service de la quarantaine animale et végétale pour le compte de l'agriculture, le service de l'environnement qui assurait la présidence de la commission ad hoc mise sur pied par Madame Redoka, provinciale. Il y avait le parquet, il y avait les membres du programme, les agents du programme national de l'hygiène aux frontières, il y avait les agents du bureau de l'hygiène ville, il y avait ceux qui représentaient la DGDA, il y avait ceux qui aussi représentaient l'OTC, les services spéciaux, ainsi que le représentant de la société Merx Congo, qui représentait l'importateur. Comme pour dire que tous les services pertinents, toutes les personnes habilitées étaient présentes à cette opération qui devait se dérouler sans faille. Mais le rapport nous dit, et je m'exprime ici au conditionnel, que cela se serait passé à moitié devant la présence de toutes ces personnes devant ce panel qui aurait quitté les lieux avant l'aboutissement de l'opération.
C'est donc une grande faute quand même, faut le reconnaître.
Absolument, parce que cette opération devra être menée de bout en bout par tous ces experts qui étaient présents, et j'ai continué à m'exprimer au conditionnel parce qu'il faudrait que le président de cette commission arrive à élucider la chose. Il se pourrait que ce panel se soit retiré avant que l'opération n'ait touché à sa fin, et il y aurait les agents de police qui avaient maintenant la charge de poursuivre et de voir l'opération se terminer. Et si la population, comme vous veniez de le dire, c'était lieu là-dessus, c'est serré dans ces entrefaites-là.
Alors, parce que nous restons au conditionnel, y aurait-il eu des complicités?
Comment répondre à cette question de manière active? Moi, je pense que si complicité il y a, cela sera mis à la nu, hein, dans les heures, pourquoi pas dans les jours qui viennent. Ça reste une hypothèse.
Alors, docteur, si je vous comprends, normalement, dans une opération d'incinération, il faudrait qu'on attende la fin de l'opération.
Absolument, parce que cela doit être sanctionné par un PV. Et ce panel devait s'identifier par leur signature pour attester le succès de l'opération. D'autant plus que, comme vous veniez de le dire, comme nous venons d'apprendre, cette commission comprenait également le représentant du Merx Congo qui était là pour le compte de l'importateur, à qui incombaient les frais, tous les frais de l'opération. Et nous supposons qu'il ne devait pas manquer tous les moyens nécessaires pour arriver au bout de cette opération. Donc, c'est tout de même intriguant qu'on n'ait pas fait aboutir cette opération.
Avez-vous eu un quelconque PV, docteur?
Nous sommes en possession de PV antérieurs, de consignations de produits, etc., etc., selon la procédure requise, mais nous n'avons pas encore le PV de l'opération en elle-même.
Raphaël Badidi, vous êtes responsable marketing du groupe Orgaman spécialisé dans l'importation des produits congelés. Comment vous réagissez par rapport à cette situation?
Ben, je pense que votre question est très claire, en fait. Le docteur a bien répondu. Je pense que normalement, si on peut poser genre des questions, c'est plus adressé au docteur qui est mieux placé. Il a bien cité que tous les services de l'État étaient là. Donc, nous, en tant qu'importateurs, bon, je ne vois pas vraiment la pertinence de cette question pour nous.
Mais ma question, je précise, hein, est pertinente parce que vous êtes également importateur. Mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé au niveau de l'Orgaman d'avoir ce genre de situation des produits d'abord?
Oui, je crois que nous suivons les procédures. Hein, donc, comme le docteur vient de le dire, les procédures sont les mêmes. Il n'y a rien de nouveau, ce que le docteur vient de dire. Mais pour les cas précis, je pense que nous n'avons rien à voir là-dedans. Si on doit savoir qui est à la barre de l'opération, donc certainement, quand le docteur recevra le PV, il pourra clairement voir qui était l'importateur.
Donc, à ce niveau, l'Orgaman émet des réserves encore.
Non, nous c'est clair, c'est, ça ne nous concerne pas dans la mesure où nous n'avons pas directement eu des avaries à détruire. Donc en conséquence, les cas précis, ça ne concerne pas l'Orgaman. Donc le docteur à côté de moi, il est mieux passé pour répondre à la question.
Oui, je pense que le docteur Bourkenge a précisé qu'il ne s'agit pas hein, de l'Orgaman. Mais je pense que l'Orgaman, dans cette émission, a sa place comme société qui a une certaine expertise, hein, qui a travaillé très longtemps dans ce pays, dans ce domaine. Je pense que c'est à ce titre-là que vous êtes dans cette émission. Et au niveau de l'Orgaman, vous dites que vous suivez les procédures, c'est-à-dire que vous allez jusqu'au bout de l'opération.
Qu'est-ce qui se passe normalement au moment de l'importation? Donc, dans un carton de poule, parce qu'il faut d'abord préciser la différence entre poulet et poule. Il y a une différence. Les poules, ce sont ceux qui sont normalement tels que l'ulki, qu'on trouve les calissards, et ce sont les viandes normalement, au départ, c'est pour les poules, pour les œufs. Par contre, les poulets, c'est le viande de la chair, quoi. Donc, en fait, quand nous avons un type de problème, nous appelons généralement le service spécialisé pour pouvoir traiter les problèmes et arriver à détruire ces produits, comme dans, je dirais, suivant les règles de l'art.
Alors, si on devrait remonter en amont, quand vous importez les produits, qui doit certifier que ce produit est propre à la consommation ou non?
Il y a tous les services de l'État. Il y a d'abord l'OCC, le service de la varie. De toute façon, généralement, ils prennent les échantillons. Quand les produits arrivent à Matadi, le bateau, il y a les échantillons qui sont réunis à tous les services concernés. Et à partir de ce moment-là, on voit quoi? Il y a la date de production, il y a la date de péremption. Et à partir de là, on peut savoir si les produits entrent réellement dans la période de consommation. Et les échantillons sont envoyés à l'OCC et nous recevons des bulletins d'analyse qui attestent comme quoi les produits sont prêts à la consommation.
Est-ce qu'il y a une contre-expertise dans ce domaine-là?
Bah, le service de l'État est là pour ça, justement. Donc, contre-expertise des annonces à notre niveau, vous voulez dire?
Oui, par exemple, à votre niveau.
Oui, en tant que responsable de marketing, bon, oui, nous connaissons, nous avons des critères, nous avons un docteur vétérinaire sur place qui prélève aussi un échantillon, analyse les produits, nous donne et parfois des confrontations par rapport à ce que l'OCC déclare.
Mais il y a des observateurs hein, qui font remarquer qu'il y aurait des cas de falsification de date de péremption de certains produits.
Bah, ça, je ne peux pas parler à part des autres. Ce que je sais, c'est que nous respectons les règles et que les falsifications, sinon, ça n'existe pas.
Honorable Modeste Bahati, comment vous réagissez face à cette situation?
Bien, d'abord, ce sont des choses respectables, hein, parce que, tel que le docteur Bourkenge a dit, je pense qu'il y a une faille dans le chef de tous les représentants du panel, que ce soit la quarantaine animale, le représentant de l'environnement, celui du parquet, l'hygiène frontière, l'hygiène ville, l'hygiène sociale, les services spéciaux, tous sont coupables. Je crois que ceci repose le problème de l'impunité dans notre pays. Parce que si des choses aussi graves, parce que ça touche à la vie, à la santé des êtres humains, si des choses aussi graves doivent se produire et qu'aucune sanction n'est prise, sachez que nous sommes en train d'aller vers une république bananière. Nous nous rappelons de ce qui s'était passé le 30 juin. Il y a eu des fautes graves. Nous n'avons jamais entendu quelqu'un qui a été puni. Devant des visiteurs, des marques, on a vu des jeunes gens en train de s'enfiler avec des chats sur la tête, donnant le spectacle d'un désordre. Mais un responsable devait en répondre. Beaucoup de fautes ce jour-là. Mais si nous continuons à cette allure, demain on nous parlera plus de l'État congolais. C'est tout ce que moi je peux dire. Parce que là, en tout cas, il faut que des sanctions soient prises à tous les niveaux de tous ces responsables-là qui se sont soustraits. Et je crois qu'ils ne l'ont pas fait gratuitement. Ils l'ont fait moyennant une contrepartie. Parce que je ne vois pas comment on peut me désigner, moi, d'aller assister à une opération. On sait que l'opération se passe en deux temps. Il y a la dénaturalisation, il y a, c'est d'ailleurs en trois temps, il y a le fait de pouvoir brûler ou incinérer tout ce qu'il y a, et l'enfouissement dans le sol, toutes ces trois opérations, on doit attendre qu'elles se déroulent. Si on est parti, c'est qu'on est complice quelque part. Et donc on répondait à une demande. Et ici, je fais allusion à la corruption, à une demande qui ne peut venir que de l'opérateur économique. Je pense que quelque part, il faut sanctionner.
Honorable Bahati, il faut aussi rappeler à nos auditeurs que vous êtes opérateur économique, précisément dans l'agroalimentaire. Pour un opérateur économique qui importe 3000 cartons, c'est quand même beaucoup. S'ils sont périmés, ces produits sont avariés, ça fait quand même un grand manque à gagner. N'y aurait-il pas dans les chefs des opérateurs économiques cette tentation que de vouloir gagner ne plus, ne serait-ce que quelque chose sur ces produits?
Mon cher frère, vous savez que faire le commerce ou bien entreprendre, créer une entreprise, c'est un risque que l'on prend. Et donc, il faut accepter les risques. Si on importe des produits aussi périssables comme cela et que ça finit par être avarié, il faut tirer les conséquences. Il ne faut pas chercher à gagner de l'argent sur la mort des gens parce que cet argent ne portera pas de bonheur. Parce que si aujourd'hui l'enquête est menée sérieusement, mais cette entreprise va payer peut-être 100 fois plus que ce qu'elle a prétendu gagner. Donc il faut peser le pour et le contre. Raison pour laquelle, je l'ai dit, il faut en tout cas saisir, il faut punir sévèrement. Nous le disons tous les jours, même si ça nous attire des années, nous disons qu'il faut punir pour que les choses changent. Donc pour moi, il est question de privilégier le profit, le bénéfice. Quand on est en train d'exposer la population à autant de risques et même à la mort.
Docteur Théophile Bokenge, y aurait-il déjà une enquête en cours pour établir les responsabilités?
Merci, monsieur le journaliste. Avant de répondre à votre question, d'abord, je voudrais exprimer toute ma grande satisfaction d'entendre un opérateur économique. De surcroît
en politique,
s'exprimer de cette manière-là, parce que si vraiment tout le monde était en train de raisonner et de donner libre cours aux différents services prestataires de l'État pour qu'ils exercent avec efficacité leurs attributions, on n'arriverait peut-être pas à la situation que nous déplorons aujourd'hui. Je remercie l'honorable Bahati, député, professeur, qui me connaît, que je connais, pour ce langage sans équivoque. Que les enquêtes soient en train d'être menées, je n'ai pas toutes les informations à ce sujet, mais je crois que qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour, quel que soit le temps que cela pourrait prendre, une enquête ne pourra jamais être occultée, d'autant plus que ce problème, moi je le considère, cette situation, je la considère comme étant un incident critique qui permet à tout le monde de se remettre en question. Vous avez vu un peu tout le monde qui a participé à cette opération et qui est faille, et ceci demande que chacun puisse se reprendre dans une introspection très objective pour arriver à tirer des leçons pour que ce qui est arrivé aujourd'hui n'arrive pas.
Mais malheureusement, docteur, ce n'est pas la première fois. Il y a eu beaucoup de produits avariés sur nos marchés. Il y a eu des enquêtes, des noms ont été cités et qui sont restés sans suite. Hein.
Beaucoup, moi, c'est vous qui le dites, hein, mais moi, je suis en train de piloter le programme national d'hygiène aux frontières, c'est le service spécialisé du ministère de la Santé chargé d'assurer le contrôle sanitaire au niveau des frontières. Quand vous dites beaucoup, je ne sais pas trop affirmer dans ce sens. J'ai fait qu'il y a eu quelques cas. Si les enquêtes n'ont pas abouti, point d'interrogation. C'est pas à moi de répondre à cette question. Je pense que tout le monde est invité à chercher la réponse à cette question dans le contexte congolais.
Raphaël Baguidi, responsable marketing du groupe Orgaman, y a-t-il déjà eu des influences politiques qui pèseraient dans l'octroi ou pour favoriser que des produits avariés puissent passer aussi facilement?
Oh, merci bien, mais je pense qu'il faut noter une chose. Je suis responsable du marketing du groupe Orgaman. Notre devise, c'est d'abord la qualité. Donc, nous privilégions d'abord la qualité avant de voir les influences. Mais à ma connaissance, et je peux vous dire que nous n'avons jamais eu l'influence pour pouvoir favoriser les produits avariés qui puissent se retrouver sur le marché. Donc, par les principes même que notre devise, c'est la qualité, on ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses.
Mais il y a de se surgeler, des produits congelés que l'on mange et qui n'ont pas de goût. On se demande, ils datent de quand comment vous justifiez ce genre de choses?
Mais je pense avant de pouvoir acheter quelque chose, il faut d'abord regarder la date de péremption. Ça dépend si vous achetez comment. Vous achetez un carton. Soit c'est un carton, vous allez trouver sur un carton, il y a la date de production et la date de péremption aussi. C'est vrai que normalement, nous, on vend directement au distributeur. Donc, si le distributeur, en fait, nous, on s'arrange. Théoriquement, je dis théoriquement, pour un produit comme les poules, c'est 12, 18 ou 24 mois, ça dépend des fournisseurs. Donc, nous faisons le maximum de temps, des choses, pour qu'on arrive à vendre ça avant cette période-là. Au cas où nous n'arrivons pas à vendre dans cette période-là, nous faisons les procédures, ce qu'on avait dit tantôt.
Alors, si on devrait prendre cette longue file, cette chaîne, prenons que ces produits soient importés du Brésil. Ils prennent combien de temps pour arriver ici chez nous, pour arriver dans l'assiette du consommateur?
Bon, c'est un peu très
difficile. Par exemple,
grosso modo, nous importons, prenons un mois, pour maximum. On peut dire maximum. Bon, dans les pires des cas, on peut arriver à 3 mois. Mais normalement, un bateau qui quitte le Brésil pour arriver, admettons, au niveau des Matadis, maximum 3 semaines, 4 semaines. Et maintenant, s'il faut considérer la période où nous vendons, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. C'est-à-dire aussi, est-ce que c'est le produit actuellement est trop recherché sur le marché? Donc, il y a encore de la fonction de la demande qui joue là-dessus. Ou tout simplement, c'est arrivé que le produit, pour des raisons quelconques, peut être tout simplement freiné pour son écoulement sur le marché.
Un autre cas, ce sont des poulets vendus sans emballage qui gagnent du succès sur le marché de Kinshasa. Quelques-uns d'entre eux donneraient l'air de ne pas être en bon état. Certains travailleurs dans des chambres froides affirment cependant que ces poulets sont très consommés dans des grandes manifestations faites lieu de deuil et dans des petits restaurants. Leur prix varie entre 2500 et 3000 francs au lieu de 4500 à 5000 comme c'est le prix de ceux emballés. Plus de détails dans ce report. Reportage de Michel Kifindangoy.
2800 francs congolais, c'est le prix du poulet sans emballage au marché Gambela. Ici, ces poulets s'observent en bonne quantité sur les étalages des marchandes. Si certains semblent être de bonne qualité, d'autres ne donnent pas l'air d'être en bon état. La question de leur origine divise les vendeuses. Pour les unes, ce sont des poulets bien emballés qu'elles désemballent elles-mêmes pour des raisons de marketing. Les autres avouent carrément que ces poulets viennent sans emballage, mais elles ignorent leur origine.
Comment je... Ces poulets viennent toujours sans emballage. D'où? On ne sait pas.
Du côté des chambres froides, même contradiction. Certains avouent qu'il s'agit de poulets venus du Brésil sans leur emballage.
Ces poulets viennent du Brésil et d'autres d'Argentine. Ils viennent sans emballage.
Les deux gros importateurs contactés affirment n'avoir jamais importé des poulets sans emballage. Pour les autorités des NOCC, le fait que leur importateur n'est pas connu prouve insuffisante l'entrée clandestine de ces poulets.
Modeste Bahati, une fois de plus, encore et encore des poulets, mais des produits dont l'importateur n'est pas connu, la date de péremption n'est pas marquée, sans emballage, des produits, on dirait, non autrement identifiés.
Oui, je vous rappelle tout de suite que nous évoluons dans un désordre indescriptible. tout cela, c'est la chance de l'État. On n'a pas d'autre explication à donner. La chance de l'État, parce que là où les choses sont dans l'ordre, organisées, les gens respectent les lois et les règlements, il y a des services qui assurent le suivi. Mais ce sont des choses qui ne peuvent pas se produire. Vous voulez que nous arrivions sûrement de voyager, nous ne parlons pas de l'Occident, mais à l'Afrique ici, quand vous allez dans d'autres pays, vous sentez qu'il y a de l'ordre. Il faut qu'on revienne à l'ordre, parce que nous le dirons jamais assez. Je ne sais pas pourquoi nous devons nous complaire dans la médiocrité, dans le désordre. Nous sommes en train d'exposer la population. Évidemment, il y a la misère, les gens cherchent ce qui coûte moins cher. Mais tous ces problèmes se posent pourquoi? C'est parce que nous ne produisons pas, nous ne travaillons pas, on ne met pas en place les mécanismes qui permettent à ce que nous puissions nous autosuffire. Avec tout ce qu'on a comme terres arables, tout ce qu'on a comme, comme avantages climatiques et autres, mais nous ne devrions pas importer à manger, c'est inexplicable. Moi, j'ai ma plantation à Kabira Calais, de 340 hectares. Mais je produis du manioc, je produis de l'arène plantain, la pomme de terre. Mais vous savez que le poisson là-bas revient à moins d'un dollar. Mais si vous devez amener ça ici à Kinshasa, de par le frais seulement, le kilo va vous revenir à 3 dollars. Ça, c'est le prix rendu Kinshasa. Si vous devez ajouter une marge de nécessaire, ça va arriver à 4 dollars. Est-ce que vous trouvez cela normal? Un kilo qui coûte pommes qui coûte 50 dollars là-bas et il vient de coûter ici 400 dollars tout simplement parce qu'on n'a pas prévu le système d'évacuation et tous les circuits de commercialisation. Donc je pense qu'il y a des réformes qu'il faut entreprendre une fois de plus, ça doit partir de la tête, parce que quand vous regardez tous ces services impliqués ici, quand on nous parle des enquêtes, mais qui mène l'enquête? Vous allez mener l'enquête là où il y a 3, 4, 5, 6 ministères, mais vous allez la mener comment? À moins que ce soit le premier ministre qui est chef du gouvernement qui l'amène. Encore que là-dedans, il y a quelqu'un du parquet, c'est un autre pouvoir. Donc vous comprenez tout de suite que nous devons revenir à la normale. C'est pas normal que nous puissions tolérer de telles pratiques et on passe ça de manière banale. Nous devons nous résoudre, mes chers frères et mes chers sœurs.
Docteur Théophile Bokenge, vous allez réagir aux propos de Raphaël Badidi et de l'honorable Modeste Bahati, mais il y a cet auditeur Kabawesi qui nous écrit de Béni au Nord Kivu qui dit « Si cela s'observe dans la capitale, qu'adviendrait-il alors aux provinces et quelles en seraient les vraies causes, docteur ?»
Merci. Je remercie cet auditeur qui a posé une question. Moi, je trouve au cours de cette édition toutes les questions pertinentes. Hein. On n'est pas indisposé les gens. Il y a seulement 3 ou 4 jours, je reviens d'une tournée de supervision dans le cadre du programme national de vision aux frontières. Je reviens de l'Ituri dans la province orientale. Et voici ce qui me permettrait de répondre à notre auditeur. Ce que nous avons trouvé sur le terrain, d'abord, c'est que nos propres services n'ont pas toujours la facilité de prester. Hein. Il y a tellement de trafics d'influence, il y a tellement un environnement tout à fait, comment je puis qualifier, pervers, qui fait que ce travail qui devait revêtir toute la rigueur ne soit pas vraiment réalisé.
Vous voulez parler de corruption?
Je crois que ces mots sont sortis déjà de la bouche de l'honorable. Je crois que la corruption n'est pas encore jubilée dans notre pays. Mais je voudrais parler de toute cette pression sur les agents de l'État qui sont là, chacun prestant dans le cadre de ses attributions, de la mission qui leur est dévolue. Eh bien, ils subissent tellement une pression et dommage, je crois que c'est notre ami qui est ici à côté qui pourrait me contredire. Ces genres de pression ont plusieurs sources. Il n'y a pas que l'homme politique, il n'y a pas que la personne la plus élevée dans la société, mais c'est beaucoup plus les opérateurs économiques qui font tellement pression sur les agents. Et cela vient d'être constaté par moi-même en Ituri. Je vous dis que je viens de là. Et il faut ajouter, c'est que l'honorable Bahati a mentionné, c'est que même sur le plan de la sécurité sanitaire, nos frontières sont encore poreuses. Donc, vous trouvez autant de pistes, autant de passages. J'ai été à Ariwara, par exemple, j'ai été à Arou. Vous voyez, il y a des pistes non couvertes par tous les services habilités.
Donc, en province, c'est pire.
Disons que les risques sont trop grands.
Raphaël Badibi,
non, écoutez, vous aviez dit que j'allais réagir à ces propos.
Allez-y rapidement.
Oui, mais parce que je ne suis pas totalement d'accord avec lui quand il dit que l'organe n'a rien à faire dans cette histoire, dans cette affaire. Moi, je crois que la salubrité des aliments, non seulement elle est devenue une préoccupation mondiale depuis la 53e assemblée de l'OMS en Afrique du Sud, eh bien, elle est une préoccupation majeure des santé publique et quiconque parle de santé publique se retrouve à la croisée des chemins de tous les secteurs. C'est multisectoriel, c'est multifactoriel. Même si cette fois-ci, l'ordaman n'est pas touché directement, je crois que cette situation devrait nous émouvoir, nous tous, et commencer à chercher des solutions pour que cela n'arrive pas. Je crois qu'il n'y a pas à faire le marketing maintenant. Nous sommes en train de parler d'une situation qui ne nous arrange pas, nous tous, même l'ordaman.
Raphaël Badi, des réactions.
Oui, enfin, je ne comprends pas la réaction du docteur. En fait, je voulais tout simplement préciser une chose, c'est que les cas précis ici ne concernent pas Orgaman. Donc, je veux pas de marketing, je suis responsable de marketing. Donc, je ne veux pas dire que ça m'intéresse, ça ne nous intéresse pas en tant qu'être humain. Ça nous interpelle tous. Mais quand tu as parlé que ces cas précis, ça concerne Orgaman, je tiens à être très précis. Les cas de varie qu'on a signalés tout à l'heure ne concernent pas Orgaman. C'est ça que je voulais tout simplement signifier. Mais je voulais un peu préciser. Je pense quand on dit souvent des poules sans emballage. Et je veux savoir un peu de quoi on veut parler, quel type d'emballage. Est-ce qu'on veut parler d'emballage secondaire ou de l'emballage primaire? Je précise. Donc, dans une poule, il y a toujours, ça appelle vulgairement les cartons, l'emballage s'appelle emballage secondaire, et puis l'emballage primaire, on appelle les sachets. Mais on peut mettre les produits, les poules, dans les sachets, séparés, dans un grand sachet, et on met un carton dans un emballage. Alors, je vois très mal un produit qui vient d'Europe ou du Brésil, d'Argentine, arriver au Congo sans emballage. Je me demande comment ça pourra passer.
Mais le cas échéant, ce sont des poules non autrement identifiées et puis sans aucun emballage. Il n'y a rien sur la poule.
C'est ça le problème
avec les cartons.
Je me sens en train de poser la question parce que nous, on vend par carton. Notre produit, l'unité de notre produit, c'est les cartons. Alors, je vois très mal sur le plan même de transport, de la manutention, comment on peut vendre le produit sans emballage.
Je pense plutôt que ce sont plutôt certains distributeurs véreux ou certains, je ne sais pas qui, mais qui ont peut-être enlevé les emballages primaires pour des raisons dont j'ignore.
Mais docteur Théophile Bourquingue, vous a quand même indexé vos opérateurs économiques par rapport à cette pression sur les agents aux frontières.
Je vois très mal Orgaman en train de mettre la pression sur les agents frontières. Dans son, je sais pas comment répondre à cette question. Je ne sais pas quel type de pression. Si la pression est que tout simplement nous voulons que les produits soient faits à temps, parce qu'en fait il y a quand même la surestarie de nave. Bon, je prends un cas, un bateau qui arrive, il y a une période hein, quand même pour un bateau. Si vous dépassez cette période de la surestarie, vous commencez à payer. Bon. Et si la pression peut arriver au niveau de tout simplement de lenteur, mais je vois très mal où l'organe va aller à tel agent spécialisé pour le faire comprendre comme quoi que vous devez nécessairement faire le plus tôt possible ou mettre pression sur la personne. Je me vois très mal organe en train de faire ça.
Alors, Raphaël Badibi, comment renforcer la sécurité alimentaire en RDC? L'honorable Bahati parlait de relancer la production et puis mettre fin à l'impunité. Au-delà de ces propositions, qu'est-ce que vous proposez?
En fait, nous sommes importateurs, nous autres. Donc, je peux vous dire que nous sommes prêts à pouvoir importer. Souvenez-vous, je pense au mois de septembre, nous avons connu un problème de tirandou au niveau du BF maritime, au niveau du Bas-Congo. Donc, en fait, on était parfois obligés de pouvoir réduire notre quantité d'importation parce qu'on ne voulait pas avoir les bateaux échoués. Donc, en termes de la sécurité, nous, en tant qu'importateurs, parce qu'ici, le Norabat, il part de la production locale. Ben, je vois, bon, moi, je ne suis pas dans la production locale, je suis plutôt dans l'importation.
Mais alors, au niveau des importateurs, qu'est-ce qu'il faut faire?
Je ne comprends pas très bien.
Pour que les produits que vous importez et qui arrivent dans l'assiette du consommateur soient plus ou moins sains.
Ben, je le dis tantôt, nous tenons à la qualité.
et c'est notre l'église même, la qualité. Donc, jamais quelqu'un a décidé de dire que les poudres d'orgamas ne sont pas de bonne qualité.
Honorable Modeste Bahati, je l'ai dit tantôt, vous évoquiez déjà la production locale et puis mettre fin à l'impunité pour renforcer la sécurité alimentaire. Avez-vous des éléments à ajouter?
Non, mais je crois que j'ai parlé de trois choses essentielles. Il y a le fait que l'État est organisé pour que nous puissions remettre de l'ordre pour qu'on sente que l'État existe de par ce service, de par l'administration. J'ai ensuite parlé de l'impunité qui doit se faire et organiser les choses de manière à ce qu'on puisse relancer la production et la bonne sécurité alimentaire. Toutes les puissances d'aujourd'hui ont commencé par l'agriculture et un pays, d'abord le premier critère pour pouvoir l'admettre dans les jurons des grands, c'est d'être en mesure de nourrir sa population. Et si nous n'y parvenons pas, malgré toutes les potentialités dont regorge le pays, eh bien, nous serons toujours considérés comme des alliés. Et je pense que ici, c'est une interpellation. Et c'est une interpellation adressée à nous les dirigeants, à tous ceux qui ont une partie de pouvoir, parce que c'est eux qui doivent donner, c'est nous qui devons donner l'intuition, et même si nous ne sommes pas nombreux à élever la voix, mais tôt ou tard, je crois qu'on sera compris. Le docteur Bokeng se rappelle que quand on venait à la conférence nationale souveraine avec ce docteur Nundi de Rêve Mémoire, nous n'étions que très peu noyautés par des délégations du pouvoir à l'époque, mais finalement notre discours a porté et on a vu qu'une majorité s'est alignée au changement, quoi qu'il soit encore une telle révolution.
Honorable Bahati, il y a deux auditeurs, Matoumaïn et Franklin de Bukavu Sud qui dit « Cette situation prouve que l'État congolais n'attache pas beaucoup d'importance à la protection de ses citoyens. Comment comprendre que des vies humaines soient exposées sans qu'il n'y ait aucune personne des services chargés de contrôle qui soient inquiétés ?» Philippe Kingwasi Mouswaeb, il est à Kikwito Bandundu. Pour ce qui est de la sécurité alimentaire, je pense que le problème se pose plus avec les produits importés que locaux. Il faut que la population s'organise pour suivre de près le travail fourni par les services aux frontières qui se laissent parfois corrompre. Il faut punir sévèrement, établir les responsabilités, et punir les coupables pour mettre fin à cette dangereuse légèreté. Tant il insiste sur le fait que la population doit s'organiser, honorable Bahati. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet?
La population, il faut l'organiser. Il ne faut pas attendre que la population s'organise. La population doit être organisée par les dirigeants. Donc, je continue à affirmer, je vais donner un petit exemple. Si on a un budget de 7 milliards, je l'ai dit, je l'ai répété à la tribune de l'Assemblée nationale, mais qu'est-ce qui empêche qu'on mette 1 milliard, 100 millions dans les provinces? Et imaginez si on met 100 millions de dollars réellement dans chaque province, et qu'on y met des comités locaux de gestion et de suivi. Mais avec 100 millions de dollars, on peut asphalter les routes qui te les voient, et même on peut achalander les produits pharmaceutiques dans les hôpitaux, on peut équiper les écoles, on peut résoudre et de l'électricité, parce que les gens en font un externe. Quand vous avez 30 millions de dollars, même si vous êtes dans le désert, il y a des technologies qui vous permettent d'avoir de l'eau et de l'électricité pour une population de 100 000 habitants, au moins. Et donc, il y a un problème de volonté. Sur 5 milliards, on ne peut pas libérer 1 milliard seulement pour toutes les provinces. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, moi, je nous interpelle. Nous, les dirigeants, nous devons changer les choses. C'est à nous de donner la voie à suivre. C'est à nous d'orienter la population. La chose va s'organiser comment? Vous prenez un paysan, mais il va s'organiser comment? Mais lui, il est là, il a ça où? Mais si vous ne lui apportez pas la technologie, vous ne lui apportez pas la sécurité, vous ne lui apportez pas les technologies, mais comment il va s'en sortir?
Merci.
Donc, il doit partir de la tête.
Docteur Théophile Bokenge, comment renforcer la sécurité alimentaire? L'honorable Bahati dit qu'il faut organiser la population, mais on se souvient que dans d'autres pays, il y a quand même des ligues de consommateurs qui suivent de près ce genre de questions.
Absolument. Moi, je crois que il y a d'abord à faire une nuance entre la sécurité alimentaire qui est du domaine de l'autosuffisance et la sécurité sanitaire,
voilà,
des aliments. Et je voudrais beaucoup plus parler
de la sécurité sanitaire de l'événement pendant que l'honorable était tout le temps en train de parler de la sécurité alimentaire. Et en ce qui concerne la sécurité sanitaire, je crois que il y a plusieurs approches pour pouvoir arriver à l'assurer. Et ici, il y a d'abord l'implication de la population elle-même au travers des actions de sensibilisation et d'éducation. Vous voyez, avec ce qui s'est passé à Mitendi, les gens se ruent sur quelque chose déjà connu comme étant impropre et insalubre à la consommation. À l'origine, ça peut provoquer des épidémies dans la ville. Eh bien, les gens sont quand même partis là-bas. Mais si on dit à la personne que pour tout aliment, toute denrée de cette nature-là, qui ne porte pas une étiquette, avec la date de production et d'expiration bien visible. Et sur ces emballages, on doit également mettre la liste des ingrédients, parce qu'on parle des importations, qui ne sont pas sans risque. Hein. Je vais un peu dans le sens de l'honorable Bati, le professeur. Donc, si la population est informée, nous croyons que cette population, dans sa frange large, est quand même déjà lettrée. Je pense qu'elle peut arriver déjà à ne pas se ruer vers des denrées présentées sous cette forme-là. Donc, en première ligne, il y a cette sensibilisation de la population, parce que c'est à elle qu'on destine ces produits.
Mais docteur, dit-on sans vous couper, ventre affamé n'a point d'oreille.
Ventre affamé n'a point d'oreille, moi je crois que devant les dangers, tout le monde s'arrête. Parce que quand on voit que la mort est là, même si on a un ventre affamé, on n'irait quand même pas au suicide. Je crois que quand la population a l'information, elle peut se prévenir contre ces genres d'aventures. Hein, de la part des opérateurs économiques, qui n'est pas tous les opérateurs économiques. Je ne parle pas de l'Orgamane, hein, parce que l'Orgamane est connu dans notre pays. Il y a l'implication du politique. Et vous savez, sans le politique, il est très difficile, franchement, de réussir dans les actions des grandes envergures. Et de fil en aiguille, oui, vous êtes en train de m'arrêter.
Voilà, je vous arrête, permettez que je vous arrête. Raphaël Badidi, que faire pour éviter de retomber dans un pareil drame?
Et je crois que l'État doit jouer son rôle. Les scènes de l'État sont là pour pouvoir travailler dans le bon sens. Et nous importons, nous respectons les règles. Bon, je pense que tout le monde doit pouvoir respecter les règles. Et c'est pouvoir respecter les règles, ça suppose que l'État doit être derrière tout le monde.
Alors, un mot en guise de conclusion à toute cette population qui vous suit et qui souvent consomme des surgelés ou des produits congelés.
Bon, je ne vais pas faire le marketing encore de nouveau, parce que Dr. m'a dit qu'il ne s'agit pas de marketing ici, mais
évidemment.
C'est une déformation professionnelle. Mais je l'ai rendu tout simplement à la population. Si vous l'achetez quelque chose de bonne qualité, venez sur la main.
Bon, ce n'est pas la publicité, on l'a dit. Hein. Honorable Bahati, votre conclusion, je vous en prie.
J'ai un failli sourire à le message de publicité, mais tout ce que je voulais dire, docteur, c'est qu'effectivement, j'ai fait la nette distinction entre la sécurité alimentaire et la sécurité alimentaire, mais il ne faut pas croire que les deux sont vraiment équidistants. Les deux sont liés, parce que lorsqu'il y a la sécurité alimentaire, ça suppose qu'il y a abondance. Lorsqu'il y a abondance, on va vers la qualité. Et ça est sûr que si nous prenons l'exemple de ce qui s'est passé là, si on pouvait trouver des produits en abondance, bien présentés ailleurs, et je crois qu'il ne se serait pas rien sur du poulet avarié.
Merci.
Donc, d'une manière générale, je crois que c'est l'État qui doit organiser ce service. Et aussi, j'insiste qu'il y ait cette fois-ci des sanctions à l'égard de tous les coupables.
Merci, honorable docteur Bokengi. Un mot en guise de conclusion.
Je pense que j'en appelle au patriotisme. Et les opérateurs économiques, tout le monde, et même les gens qui sont dans la technique qu'on a cité, le panel en question, je crois que avec un peu plus de patriotisme, on n'arriverait pas à de telles actions.
Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Guy Maté et Kéline Couté. Supervision rédactionnelle Martin Sebujangwe. Mise en onde Héritier Sibiakala. Coordination technique Bob Landou. Présentation Alain Hirung Mouchige. Au revoir.
Thank you.